Je n'ai pas honte et je n'ai pas de douleur pour avoir mal vécu ces années.
L'histoire de Zara est une histoire de la Russie d'aujourd'hui où seuls ceux qui ont de l'argent et du pouvoir ont des droits.
Nous autres, ce soir, à partir de 20h. France Inter,
la voix est libre.
15h04 sur France Inter, tout de suite là-bas, si j'y suis, avec Daniel Mernet.
Bonjour, je voudrais faire deux remarques suite à l'intervention de Monsieur Mélenchon hier soir sur France 2. Il a commencé l'entretien en parlant d'un syndicaliste qui était là, qui a lancé un œuf sur les CRS. Un œuf, je dis bien un œuf, pas une bombe, hein, un œuf. Et qui a pris 2 mois de prison avec sursis, 5 ans d'inéligibilité, 1 000 euros d'amende et il devait 100 euros aux 9 CRS qu'il a soi-disant blessés. Voilà, ça c'est la démocratie de M. Hollande, nouvelle version. M. Mélenchon demande à l'Assemblée de faire une désobéissance civile, c'est-à-dire de voter l'amnistie des syndicalistes. Je veux juste rappeler que normalement dans la Constitution, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif sont séparés, souverains, et que le pouvoir législatif n'a aucun ordre à recevoir de l'exécutif. Donc je rappelle, exécutif, législatif, judiciaire sont dans une démocratie, une vraie, des pouvoirs séparés. Salut.
Salut Daniel, j'appelle au sujet de la manif du 5 mai là, qui est à Paris. Et comme plein de gens, ben, ça coûte cher de monter à Paris. Hein. Moi, ce qui me dérange là-dedans, c'est qu'à l'époque, on arrivait, on était 500, on payait pas le train. C'est comme ça. À l'époque des manifestations pour le CIP, c'est vieux, ça, les années 93, 94, on paye pas, c'est comme ça, j'étais à l'école, moi. Et puis, pour le CNE, c'était pareil. Et aujourd'hui, quand on fait grève, quand on n'est pas content, eh ben, faut le faire gentiment. Faut avoir de l'argent pour monter à Paris. Ou on peut aussi monter en voiture, en covoiturage, arriver au péage à Paris, on paye pas. Mais c'est possible. Pour ceux qui ont vu la saga des Conti, ils sont arrivés à 500 au péage, ils n'ont pas payé.
Les infos de France Inter, ni ce matin, ni à 13h, n'ont parlé de l'ouvrier qui s'est pendu chez Renault Cléon. La journaliste avait au téléphone Madame Parisot Laurence et n'a pas trouvé utile de lui poser la question. Bonjour et au revoir à toute l'équipe.
Bonjour, Monsieur Copé veut nous faire croire que la cause de la crise, c'est le trop-plein de fonctionnaires. C'est-à-dire que Monsieur Copé veut que se multiplient les fusillades impulsives comme à Istres, les poussages impromptus sous le métro comme à Paris, etc. Puisque grâce aux suppressions de fonctionnaires de la santé publique, des milliers de places ont été fermées en psychiatrie par Sarkozy. Et les malades mentalement perturbés sont donc abandonnés sans suivi, laissés à leur pulsion au milieu du reste de la population, qui n'est bien sûr pas avertie. Bilan des morts. Mais Monsieur Copé ne risque rien, puisqu'on lui paye des gardes du corps.
Bonjour Daniel Mermet de là-bas si j'y suis. Cette émission sur les personnels de maison m'a fait beaucoup rire. Ma grand-mère en 1912 a commencé à l'âge de 7 ans et toute sa vie elle a été bonne. Ma mère a ensuite poursuivi en étant femme de ménage et j'ai eu la chance d'avoir ces deux femmes avant moi qui m'ont poussée à parler des langues pour ne pas faire le même travail qu'elle. En tous les cas, je vois que le monde depuis 1907 ou les années 60 n'a pas autant évolué que ça. Et c'était très sympathique et très amusant, mais un petit peu triste quand même. Au revoir, merci.
Oui, bonjour les AMG. Voilà, moi, je voulais rebondir sur le sujet des gouvernements que je viens d'écouter. En parlant de mon expérience là, de cet hiver, j'ai bossé comme femme de chambre dans un hôtel 4 étoiles et on avait donc une gouvernante. Et nous, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle nous chronométrait quand on travaillait, donc c'était bien sympa, hein, petit chronométrage pour voir le temps qu'on met, parce qu'on devait faire 10 minutes maximum par chambre. L'autorité, elle se faisait par décret. La gouvernante, elle nous volait les pourboires, hein, elle passait dans les chambres quand il y avait des départs avant nous, comme ça, elle prenait tous les pourboires. Il y a même eu un arrêt maladie pour dépression pendant la saison, donc voilà, je ne vais pas vraiment pleurer sur le sort des gouvernantes. Hein. La réponse est oui, les gouvernantes elles peuvent faire subir ce qu'elles ont vécu par le passé au petit personnel, comme on dit, les petites femmes de chambre, et devenir elles-mêmes des bourreaux. Donc voilà, allez, au revoir.
Bonjour Monsieur Mermet, je vous appelle de la part du cabinet de consulting de Haute-Savoie. Nous suivons votre carrière depuis quelque temps et nous avons repéré votre fort potentiel. Nous avons une proposition très intéressante à vous faire. Veuillez nous rappeler de toute urgence, vous ne serez pas déçus. Au revoir.
Et voilà, les chasseurs de tête sont à mes trousses. Aujourd'hui, les amis, on va s'intéresser à l'enfant qui rêve. L'enfant qui rêve, l'enfant qui raconte son rêve. Je vais vous en dire plus dans un petit instant. Mais auparavant, je dois revenir sur l'audience de France Inter pour le premier trimestre 2013, la semaine dernière, je crois. J'ai rappelé, comme ça a été dit partout dans les médias, que sur un an, France Inter avait perdu 10% de ses auditeurs. Et effectivement, si on garde les chiffres, premier trimestre 2012, 11 points. Premier trimestre 2013, 10 points. Donc, 10% d'auditeurs en moins, soit environ 500 000 auditeurs en moins. Et là-dessus, il y a une controverse. La direction de France Inter n'est pas du tout d'accord avec cette façon de présenter les choses. Et pour la direction de France Inter, la cause de cette chute, c'est la grève de début janvier 2013. Une grève d'une semaine qui a fait fuir les auditeurs. Alors là-bas, si j'y suis, étant solidaire de cette grève, nous sommes donc coupables, nous aussi, de cette fuite des auditeurs. Dont acte. Alors, il y a des mauvais esprits dans cette maison, et un peu partout, qu'il faut observer que France Info, nos amis de France Info, connaissent également une baisse d'audience de plus d'un point, alors qu'il n'y a pas eu de grève... Pardon, il n'y a pas eu de grève sur France Info. Alors c'est un petit peu compliqué. Mais on peut conclure que la cause de la baisse d'audience, c'est peut-être la grève, mais que c'est peut-être pas la grève. Voilà. Et on peut conclure, comme le fait Télérama, je cite, « Impossible de faire un distinguo clair entre l'impact de ce mouvement de grève et une éventuelle désaffection plus durable des auditeurs pour tel ou tel programme. Pour faire court, comme dit Télérama, l'antenne est dans le rouge de 6h30 à 15h. À 15h ! Mais 15h, c'est là-bas si j'y suis. Et en effet, là-bas si j'y suis n'est pas dans le rouge, contrairement à ce que certains affirment. On n'est pas dans le rouge du tout. Au contraire, malgré la grève de ces méchants grévistes, là-bas maintient une audience très stable, je vous l'ai dit. Vous êtes 580 000 à nous écouter chaque jour, ce qui est un record pour cette tranche horaire. Merci de votre fidélité. Et puis je voudrais dire évidemment que cette baisse de l'audience de France Inter, qui n'est pas si importante que ça, ne nous fait pas plaisir du tout, ne me fait pas plaisir du tout. Je tiens beaucoup évidemment à cette maison et à cette antenne à laquelle j'aurais consacré à peu près l'essentiel de ma vie, puisque j'y suis depuis 1976. Et je suis certain, et là je mets ma vieille expérience en avant pour vous dire que nous ne manquerons pas de remonter la pente. Aujourd'hui donc, la question que je vous pose est la suivante. De quelle couleur est la tomate? Et il y a un enfant qui a répondu, elle est bleue. Eh bien, son père lui a foutu une baffe. Et pourquoi le père lui a foutu une baffe? Eh bien, c'est histoire de te faire comprendre, dit le père, tout ce que j'ai enduré pour devenir normal. J'allais dire moral, mais c'est presque la même chose. Pour devenir normal. C'est une petite fable de Roland Topor qui ouvre l'émission d'aujourd'hui. Vous allez voir et vous allez entendre, mais vous allez voir les rêves racontés par des enfants. Oh, alors vous dites rêve et enfant, ça va être le monde merveilleux de l'enfance. Eh ben, pas vraiment, pas toujours, pas forcément, même pas du tout. En tous les cas, ces paroles d'enfant ne s'adressent pas à nous, mais à l'enfant que nous n'avons peut-être pas encore tout à fait massacré en nous. Alors vous dites, mais d'où ça vient cette émission, l'enfant qui rêve? Eh bien, figurez-vous que c'est en faisant le ménage dans notre bureau, et on a retrouvé ce reportage sous la patte de l'éléphant qui vit au milieu de notre bureau. On ne vous l'a peut-être jamais dit, mais on a un éléphant qui vit au milieu de notre bureau. C'est pas toujours facile de le contourner, mais il est bel et bien là. Et on a négocié, il a accepté de vous laisser entendre ce reportage d'Anne Rioux qu'il avait sous sa patte depuis très longtemps. C'est tout à fait exceptionnel. Et vous avez de la chance parce que notre éléphant a un caractère plutôt ombrageux. Auparavant, quand quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans les boîtes vocales, au 01 56 40 37 37.
Un grain de riz, est-ce que je sais ce que c'est? Y a-t-il seulement quelqu'un qui le sache? Du riz, je ne sais pas ce que c'est, je ne connais que son prix. Un plant de coton, est-ce que je sais ce que c'est? Y a-t-il seulement quelqu'un qui le sache? Un plant de coton, je ne sais pas ce que c'est. Je ne connais que son prix. Un homme, ça mange trop. C'est ça qui fait monter son prix. Pour fabriquer le manger, il faut des hommes. Les cuisiniers en font baisser le prix. Mais les mangeurs le font monter. D'ailleurs, il y a trop peu d'hommes. Qu'est-ce au juste qu'un homme? Un homme, est-ce que je sais ce que c'est? Y a-t-il seulement quelqu'un qui le sache? Un homme? Je ne sais pas ce que c'est. Je ne connais que son prix. Bertolt Brecht.
Pour mesurer le mur des cons, un décamètre, un décamètre. Pour mesurer le mur des cons, un décamètre, nom de nom.
Mais j'ai pas d'amis. C'est normal que je rêve d'avoir des amis dans la classe. Dans la classe. Parce que ils veulent pas m'écouter. En plus, ils ont peur de moi. Parce que des fois, tout le monde m'embête et ça me fait pleurer en criant. Mais ils me donnent des coups et ils me font tout pour. Des fois, moi, je fais des cauchemars, des fois. Je me réveille et je vais dans le grand lit. Des fois, j'ai peur que mon père est dans le grand lit.
Et est-ce que tu as des frères et sœurs?
Non, je suis tout seul.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Anne Rioux. Là-bas, si j'y suis, de quoi rêvent les petits-enfants?
Flight number 2, arriving from New York.
Des fois, je fais des cauchemars, des fois, je fais des rêves. Y a toujours des rêves qui sont jolis. Des fois, ils me font pleurer, les rêves.
Oui, mais des fois, je fais un rêve qui me choque.
Je me dis un peu comment je dois faire pour rêver. Après, je ferme les yeux et moi, je m'en souviens pas le lendemain si j'ai fermé mes yeux pour rêver.
Après, je me rendors, je rêve presque pareil. Je me rendors, je rêve le film qui me choque, là. Après, je le refais, un autre, je le refais, un autre, je le refais, un autre. Après, je le refais, un autre, je le refais, un autre, je le refais, un autre. Je le refais, un autre, je le refais, un autre, je le refais, un autre. Après, je le refais, un autre, je le refais, un autre, je le refais, un autre. Je le refais, un autre, je le refais, un autre, je le refais, un autre. Après, je le refais, un autre, je le refais, un autre, je le refais, un autre.
De quelle couleur est la tomate? Bleue, répond l'enfant. Et paf, une baffe lui fout le père à l'enfant en lui disant « Comme ça, sale môme, tu auras une petite idée de ce que j'ai souffert pour devenir conformiste. » Roland Topor l'avait bien vu, l'avait bien mesuré, avait bien mesuré le prix que nous faisons payer, que nous nous faisons payer pour devenir normal, pour être admis. Là, on va en deçà de ça, ou au-delà de ça aussi, comme vous voulez. Dans les rêves que font les enfants. Pas les rêves eux-mêmes, mais le moment de la mise en mots. Le moment de la mise en mots. C'est-à-dire le moment maudit où revient la lumière et on essaye de dire. Le moment charnière où l'intelligence rencontre l'imaginaire. Le moment où on en dit trop ou pas assez. Mais le moment où on en dit. Le moment où, face au tumulte, face au labyrinthe, on tâche, comme disait Bettelheim, de mettre un peu d'ordre dans la maison intérieure, un ordre qui nous est propre, puisque le rêve appartient au rêveur et à lui seul. Alors voilà, c'est une heure avec des enfants qui racontent leurs rêves. C'est les enfants que Anne Rioux est allée voir à l'école élémentaire Voltaire à Montreuil. Des enfants qui sont en cours préparatoire, en cours élémentaire, et qui racontent leurs rêves exactement comme ils dessinent, avec cet aplomb, avec cette vitesse, à ce moment, non seulement où on tâche de mettre des mots entre le rêve et l'interlocuteur, c'est-à-dire souvent soi-même, mais ce moment aussi de la vie où on est entre le pour de faux et le pour de vrai, la limite n'est pas encore dessinée, la frontière n'est pas encore établie, le mur du conformisme n'est pas encore construit, on ne sait pas encore là si les tomates sont aussi rouges qu'elles le prétendent. C'est une heure à écouter sans vouloir analyser, bien sûr, sans vouloir disséquer, bien sûr, sans vouloir non plus réduire à joli, à cucu la praline, bref, à toutes ces choses rassurantes dont les adultes ont le secret inquiet. Une heure qui ne s'adresse pas à vous, mais à l'enfant en vous. Alors voilà, laissez écouter l'enfant que vous avez peut-être réussi en vous à ne pas tuer.
Je fais des larmes pour que tu me touches. C'est facile, j'appuie fort sur mes yeux. Je pense à avant quand je jouais bien. Des fois je pétais dans mon bain, ça faisait des bulles, ça j'aimais bien. Là quand je pète dans ma bulle, je fais des trous dans mon ensemble. Une bonne bouffée d'air sale, qui m'épluche, me tripote. Je veux toi, rien que toi, sans les capotes à cinq doigts. Je veux toi sans ta blouse. Non, je rigole quand j'y pense, ça me fait rougir. Je rêve que tu m'emmènes sur ta moto bulette. Dans le rêve, je suis un homme, parce que dans moi, je suis plus grand. Je fais semblant de dormir, je regarde et j'ai mal. Vous êtes derrière mon ciel.
Et puis après, j'ai rencontré une fée. Elle était toute bleue. Oui. Bleu clair. Et j'ai dit à la fée de rendre ce monde plus joyeux. Et voilà.
Et ça a marché ?
Oui.
Et le monde était plus joyeux ?
Oui. Mais c'est un peu horrible, mais ça termine bien.
La 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 la. La 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 la. On peut pas vivre dans le passé. Faut abandonner tout ce qui est périmé. Les idées reçues, les pensées fanées, les morales tordues et les tabous rouillés. Quand on a peur du progrès, on devient l'apôtre des regrets. Oui, l'apôtre des regrets. La 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 la. Quand on a peur du progrès, quand on a peur du progrès, on devient l'apôtre des regrets. La 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 tout, la 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 tout, la 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 tout, la 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 tout. Oui, l'apôtre des regrets. La la la. Ouh. J'étais oublié.
C'est un grand moment de l'histoire d'une vie. C'est un grand moment de l'histoire des hommes. Jadis, et encore dans beaucoup de cultures, le rêve a une très grande importance. Le rêve est chargé de sens. Le rêve que va faire le chef de la tribu va être prémonitoire, va dire, va pouvoir trancher, va anticiper, va enseigner. Et aujourd'hui encore, finalement, individuellement, évoquer, énoncer un rêve, c'est une occasion. Une occasion de quoi ? De penser à soi-même, de songer à soi-même, de méditer peut-être, d'être dans ce drôle d'état qui est entre le sentiment, l'émotion et l'intelligence. Et c'est quelque chose de très important. Encore, quoi qu'on en pense et quoi qu'on en dise, notre siècle aurait-il à la fin évacué le rêve, l'aurait-il réduit à la portion congrue, au point que beaucoup diraient « mais moi je rêve pas, je rêve », alors qu'on sait très bien que nous rêvons tous, toutes les nuits nous rêvons, et qu'il suffit de décider de s'en souvenir pour qu'au matin, on puisse tenter de le raconter. Mais à qui ? La solitude est telle, grandissante, qu'on n'a pas forcément les interlocuteurs pour raconter ce qui est une production absolument personnelle. C'est unique. Le rêveur est unique, même si les matériaux de son rêve sont puisés partout. Le rêveur, on pourrait dire que le rêveur ou le rêve fait feu de tout bois. C'est la même chose chez les petits, sauf que à l'âge des enfants que nous allons voir, vers 6, 7, 8 ans, les frontières, je le disais tout à l'heure, entre, comme on dit, le rêve et la réalité, mais c'est pas ce qu'on veut dire, entre le fou et le vrai, mais c'est pas ce qu'on veut dire non plus. En tous les cas, il y a quelque chose qui n'est pas encore dessiné, défini. Et c'est pas seulement un enchantement que vous allez sentir et entendre, c'est un étonnement très profond, très ancien, et qui est en résonance avec la profondeur même de ce qu'on appelle l'humain.
Je rêve presque pas.
Presque pas ?
Oui, presque pas. Des fois je rêve et des fois je rêve pas.
J'aime les rêves. Parce que si je fais des cauchemars, moi j'ai le cœur qui est en train de dormir et je me sens un peu malade.
Pourquoi tu aimes les rêves alors ?
Parce que ça me fait rêver. En plus, il y avait mon père qui a dit « on y va dans le train des rêves, dans le monde des rêves ». Parce que quand j'étais petit, on faisait ce jeu-là tous les soirs. C'était un train qui va dans le rêve, on s'endort et le train est déjà parti dans les rêves. Parce que, en plus, si on arrive tard dans la gare, ben on est en retard pour aller dans les rêves. Mes parents dorment déjà, mais moi, j'arrive pas à dormir. Alors moi, je me dis un peu comment je dois faire pour rêver. Après, je ferme les yeux et moi, je m'en souviens pas le lendemain si j'ai fermé mes yeux pour rêver. Si je rate un train, je vais aller dans le mauvais train. Je vais aller dans une autre gare qui dit la gare des dangereux cauchemars. C'est mon papa qui m'a dit ça. Quand moi je dors les yeux ouverts et moi des fois je pleure des fois moi comme si ça m'arrivait quand j'étais petit et quand j'avais quelques ans ou que j'ai pleuré.
Les rêves en disent long, mais quoi au juste? Qui détient la clé des songes? Personne. Personne n'a jamais détenu la moindre clé du moindre songe, même s'il existe des quantités d'ouvrages depuis la nuit des temps, des quantités d'hommes et de femmes qui ont cru pouvoir dire le sens des rêves et interpréter les rêves. Mais interpréter, oui, on peut interpréter les rêves tant qu'on veut. Mais ça, c'est de l'ordre de la conscience, c'est de l'ordre du jour, c'est pas de l'ordre de la nuit, c'est pas de l'ordre de l'obscur. Ce combat entre le clair et l'obscur se fait là, devant nous, dans les voix et les mots de ses enfants.
Moi, le plus souvent, je rêve que je me marie avec des femmes. Le plus souvent. Et puis, voilà. Exactement, je vois que je suis sur un pont avec un toit. Il y a tous les gens en bas avec leurs chapeaux, les femmes comme ça, et puis voilà.
Toutes les femmes ont des chapeaux?
Non, que les messieurs, quoi.
Ah bon? Hein? Je croyais que c'était les femmes qui avaient des chapeaux dans les mariages. Non?
Non. Moi, je suis habillée tout en noir avec un chapeau et avec une cravate, un nœud papillon, comme ça.
Et la mariée, comment elle est?
La mariée, elle est avec un... Elle est avec un truc là qui pend par terre, une robe blanche, et puis voilà.
Et elle est dans quelle couleur?
Blanche. On est sur une grande table, quoi. En train de manger.
Et tu te maries toujours avec la même personne chaque fois que tu rêves?
Non.
Non?
Non, non. Jamais avec la même personne.
Mais en fait, c'est parce que tu as envie de te marier?
Non, c'est pas vraiment ça. Ça m'est arrivé juste comme ça. Très souvent. Oui, mais des fois, je fais un rêve qui me choque. C'est un rêve que... Je rêve que je suis dans une maison hantée, avec des squelettes qui font les zèbres, des diables qui ont des cornes, mais comme ça, voilà.
Vers le sol, quoi, qui tombe vers le sol, oui.
Et puis des vampires avec les dents qui vont jusqu'au parterre.
Ah bah dis donc, ouais. Et je suppose que tu as peur, alors?
Oh oui, j'ai fait un cauchemar, même, que je suis allée rejoindre mon papa dans son lit. un jour, j'ai rêvé une fois, après je me rendors, je rêve presque pareil. Je me rendors, je rêve le film qui me choque, là. Après, je le refais, un autre, je le refais, un autre, je le refais, un autre. C'est un jour que je l'ai fait. Le lendemain, je vais à l'école, machin truc, je rentre, je mange, je me couche, je fais celui qui me choque. Après, je me recouche le jour suivant. Je fais le même rêve que la première fois. C'est comme ça que voilà, je le fais très souvent.
Je m'appelle Alexandra, j'ai 6 ans et demi.
J'ai rêvé que j'étais dans une fusée avec un copain et puis il y avait une grue en feu et puis j'ai voulu la sauver avec mon copain. Alors on a mis de l'eau dessus.
De l'eau. Ah, de l'eau sur la fusée?
Non, sur la grue, parce qu'elle était en feu. Et après, il y avait un peu de feu au-dessus qui était parti. Après, il y a des messieurs qui étaient dedans, parce que alors on les a enlevés avec mon copain. Après, on a appelé les pompiers parce qu'on n'arrivait pas à sauver la grue.
La grue, c'est ça?
Oui. Après, je suis rentrée à la maison. Avec mon copain.
C'est un copain que tu as vraiment ou que tu as dans ton rêve?
Non, c'est un copain que j'avais quand j'étais en maternelle. Il est resté en maternelle.
Ah, tu ne le revois? Est-ce que tu le revois?
Quelques fois dans la rue.
Pourquoi une grue? Tiens, quelle drôle d'idée. Pourquoi une grue en feu?
Je sais pas.
L'or de mon cœur donnait l'heure. Et alors j'étais fort mais j'ai perdu la fleur. Et l'innocence, dans ce décor je me sens perdu, rien n'a plus de sens. J'ai encore quelques rêves, si tant est que j'ai le temps, j'irai caresser leurs lèvres. J'ai encore quelques rêves, et si tant est que j'ai le temps, j'irai caresser leurs lèvres. Il fut un temps où rien n'était éteint, où seul l'or de mon cœur donnait l'heure. Et alors j'étais fort mais j'ai perdu la fleur et l'innocence. Dans ce décor je me sens perdu, y'a rien n'a plus de sens.
Et après, tu fais des rêves, après.
Des fois.
C'est un bon film.
Si je rate un train, je vais aller dans le mauvais train. Je vais aller dans une autre gare qui dit la gare des dangereux cauchemars. C'est mon papa qui m'a dit ça. C'est mon papa qui m'a dit ça.
Rêve d'enfant, quand on dit rêve d'enfant, on veut dire quelque chose de joli, de cucu, de mignon, de frais. Alors qu'on sait très bien que c'est pas vrai du tout. On a été enfant, on a des enfants, et on sait très bien que les rêves que nous faisons
enfant ou pas, mais enfin enfant, puisque c'est les rêves d'enfant dont il s'agit là, sont loin d'être tout rose, tout gentil, tout ensoleillé. Beaucoup sont inquiétants, sont terrifiants, d'autres sont absurdes, sont insolites. Mais quel est le sens de ces mots insolites, absurdes, inquiétants, terrifiants par rapport aux rêves, surtout comme là, comme dans ces propos de ces enfants, où on se laisse aller, on a relégué la pensée là où elle doit être, le plus loin possible, je dirais la logique, et on s'abandonne à des associations de mots, d'idées, pour essayer d'échapper à la censure de la conscience, et ça donne ces récits qui sont évidemment, si on est réceptif, en écho avec les nôtres propres.
Je m'appelle François. J'ai 7 ans et demi. Et mon rêve, c'est que j'ai plein d'amis. Parce que hier soir, moi, j'ai rêvé qu'il y avait Pierre et qu'il y avait un enfant qui était tombé dans l'eau. Et Pierre était allé dans l'eau, mais moi, j'ai cru que c'était moi et je suis tombé dans l'eau aussi.
Pierre, c'est qui ?
C'était un copain qui était avant dans ma classe et maintenant il est dans une autre école.
Est-ce que tu le vois encore ?
Non. Mais après, on a sauvé un enfant. Et après, on est remonté. Et moi, j'ai cherché partout Yuvadi, elle n'était pas là.
Yuvadi, qui est-ce ?
C'était. Elle a aussi changé d'école. Parce que moi, un jour, j'ai dit à ma mère que j'avais pas de d'amis.
Et dans ta classe, est-ce que tu as réussi à te faire des amis ?
Non. Mais j'ai pas d'amis. C'est normal que je rêve d'avoir des amis dans la classe. Dans la classe. Parce que. Ils veulent pas m'écouter. En plus, ils ont peur de moi. Parce que des fois, tout le monde m'embête et ça me fait pleurer en criant. Ça me fait pleurer en m'embête. Mais ils me donnent des coups et ils me font tout pour ils me font tout. Parce qu'en plus, quand le mardi, il y a ma mère qui va aller au médecin pour faire l'acupuncture et moi je reste chez les parents de mon père. Même le vendredi, parce que comme le vendredi je mange, même le mardi je mange. Et des fois, tous les vendredis, elle va au supermarché à Auchan ou à Carrefour.
Et là, tu l'accompagnes ?
Non, des fois. D'accord. Et je peux pas, maintenant, je peux pas parce que j'énerve maman quand je vais avec elle. Parce que moi, je vois des jouets ou quelque chose qui me plaît et j'en veux, mais ma mère veut pas que je l'achète. Des fois, moi, je fais des cauchemars, des fois. Moi, je fais des cauchemars et en plus, ça me fait réveiller. Je me réveille et je vais dans le grand lit. Des fois, j'ai peur que mon père est dans le grand lit. Et si mon père est pas dans le grand lit, parce que moi, je me réveille. Des fois, je me réveille quand mon père est là et des fois, je me réveille quand mon père est pas là. Ce matin, je m'ai réveillée tôt et j'étais à côté de ma mère.
Ton papa part très, très tôt au travail ?
Oui, il part avant moi. Moi, je rentre dans la classe à 9h et mon père vient plus tôt. Je ne sais pas l'heure qui entre du travail, qui entre au travail, mais il vient à 7h30 en plus. Il vient à 7h30 tard.
Le soir, tu veux dire, quand il rentre, c'est ça ?
Oui.
Qu'est-ce qu'il fait comme travail, ton papa ?
Dessinateur. Il est à l'ordinateur.
Il dessine sur des ordinateurs ?
Oui, en plus, c'est ça mon métier que j'ai envie de faire. Moi, en avril, je suis née en avril et en plus, ça va être mon anniversaire.
Qu'est-ce que tu vas faire pour ton anniversaire en avril ?
Ben, je vais faire mon anniversaire en avril. Ben, je vais inviter mes parents, mon père et j'aurai des cadeaux. Parce qu'on a toujours des cadeaux quand on fait ses anniversaires.
Et est-ce que tu inviteras des gens de l'école?
Non. Non, parce qu'en plus, ils connaissent pas ma rue.
Mais tu as un animal chez toi?
Oui, j'ai un chat. Elle s'appelle Maigrichon.
Et est-ce que tu as des frères et sœurs?
Non, je suis tout seul.
Et tu l'as dit à ta maîtresse?
Non.
Pourquoi tu me le dis à moi, alors?
Parce que c'est mon rêve.
Après, je vais y mettre mes petits oignons. Et ce sont des oignons nouveaux. Je vais les couper en deux.
Tout à fait comme pour un rôti.
Vous faites un pareil.
Voilà. L'autre pareil. Petit pareil. Petit lardon.
Mais ça termine bien.
Et vous allez les mettre dans la poêle avec le reste,
oui.
Vous croyez?
Tout va cuire en même temps.
Là, c'est...
Y a toujours des rêves qui sont jolis. Des fois, ils me font pleurer, les rêves.
Ils me font pleurer, les rêves.
Oh oui, j'ai fait un cauchemar, moi, vu que je suis allée rejoindre mon papa dans son lit. Oui, mais des fois, je fais un rêve qui me choque.
Je me dis un peu comment je dois faire pour rêver, après je ferme les yeux et moi je m'en souviens pas le lendemain si j'ai fermé mes yeux pour rêver.
Entre chien et loup, mise en mots des rêves que font les enfants. Bruno, Alexandra, François, Antoine, Youssef, Judith, à l'enfant de l'école élémentaire Voltaire à Montreuil. Vous avez vu ce que dit François, c'est étonnant. Anne lui dit, mais pourquoi tu me racontes ça à moi? Parce que vous avez vu comment il est passé du récit de son rêve à lui-même. C'est une façon de penser à soi, de parler de soi. Et pourquoi tu me dis ça à moi, demande Anne. Et François, il dit, parce que c'est mon rêve, c'est quelque chose qui est à moi. Un rêve qu'on fait, c'est quelque chose qui est à soi. Et alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait défricher, il faudrait déchiffrer. Et non, le rêve, c'est l'inverse. Il faudrait trouver des mots comme chiffrer, fricher. Voilà ce qu'il faut. C'est ramener du chiffre, c'est-à-dire du compliqué, du à soi, de l'unique et de la friche, c'est-à-dire tout ce qui sert de terreau au rêve, à la pensée, au sentiment, à l'émotion, etc. Et c'est pourrait bien que nous soyons peut-être éloignés de tout ça à notre époque. C'est pas si sûr que ça. L'important, c'est les mots que ces enfants mettent sur leurs rêves dans la cour de l'école Voltaire à Montreuil.
Je m'appelle Dabo.
Dabo?
D-A-B-O. J'ai 7 ans.
Tu as des frères et sœurs?
8. Il y en a un qui s'appelle Madou, il y en a un qui s'appelle Djadé, et il y en a un qui s'appelle Seta, il y en a un qui s'appelle Diaby, il y en a un qui s'appelle Bakari, et j'ai un petit frère qui s'appelle Samba, et il y a une grande sœur qui s'appelle Sally.
Et toi, tu es où dans les 9 frères et sœurs?
Je suis moyenne.
Et tu es née à Paris?
Non, je suis née en France. À l'hôpital Montreuil.
Et alors, quand tu es une fée, dans ton rêve, qu'est-ce que tu fais?
Je fais de la magie. C'est quand on fait disparaître quelque chose et puis il y a un autre... Il y a quelque chose qui vient.
Est-ce que tu as fait disparaître des gens?
Oui. Je claque mes doigts, comme ça. Il devient beau, belle. Il y en a qui sont malades. Je jette un sort pour qu'il devienne plus malade.
Et quand tu me disais que tu rends les gens beaux, ça veut dire qu'ils étaient comment avant ?
Ils n'étaient pas beaux parce qu'ils avaient des vieux habits. Ils n'étaient pas très bien habillés. Ils n'avaient pas de beaux chaussures. Et puis de beaux vêtements.
Et puis à ce moment-là, tu claques dans les doigts et hop.
Et puis il redevient beau, intelligent. Puis.
Et intelligent, ça veut dire quoi exactement ?
Ah, ça veut dire qu'ils sont polis, ils sont bien élevés, puis ils sont gentils.
Est-ce que tu as de beaux habits ou pas des beaux habits, toi ?
Des beaux habits.
Attends que je regarde. Ah, dis donc, c'est Adidas. Et en chaussures, qu'est-ce que tu as ? Est-ce que tu as de jolies chaussures ?
Oui. Oui.
Qu'est-ce que c'est ? Comment ça s'appelle ?
Nike.
Des Nike. Et pour toi, c'est comment est la plus jolie robe ? Ou le plus joli vêtement que tu puisses porter ? Comment est-ce ?
C'est un pantalon avec des rayures, orange, puis un sous-vêtement. Avec plein de fleurs là-dessus. Puis un petit personnage là-dessus, dessiné là-dessus. Bah, une fille. Une magicienne. Un garçon, une fille. Des hommes, des femmes. Puis un haut. Un petit chapeau avec plein de fleurs là-dessus. Bon, j'arrête pas très vite, ça.
Tous les jours.
Oui. C'est parce que c'est un rêve très joli que je voudrais le faire un jour.
Youssef, j'ai 9 ans, j'ai fait un cauchemar. C'est un fantôme qui vient m'égorger. Il vient avec un couteau et coupe la tête.
Mais souvent ?
Oui.
Et après, qu'est-ce qui se passe?
C'est fini. Je suis réveillée. Mm-hmm. Réveillée. Après, j'ai entendu quelque chose dans la cuisine.
Et tes parents sont d'où?
D'Algérie.
Mais vous êtes qui est-ce qui habite en France en ce moment? C'est toi et puis...
C'est moi et mon père et mes parents et mes frères.
Et où est le reste de la famille?
En Algérie.
Et tu t'en souviens de l'Algérie, toi, ou pas?
Oui.
Jusqu'à quel âge tu étais en Algérie?
8 ans.
Je sais pourquoi il est parti, parce qu'il y avait la guerre mondiale. Moi, j'ai un rêve à dire, mais c'est un peu horrible, mais ça termine bien. Alors, c'est que je suis dans une maison hantée, et j'arrive dans un tunnel, je vois un train, et puis j'y vais dedans, et puis il y a des monstres, mais le plus pire que j'imagine, c'est un vampire avec une grande bouche et des grandes dents qui ouvrent devant moi, et puis j'ai pris une manche, et puis aussi j'ai vu de la bouille de sorcière qui descend du mur avec une araignée dans la truc, dans le chaudron plutôt. Et aussi il y avait un petit truc qui m'avait fait rebondir du train fantôme. Alors j'étais partie du train fantôme. Et puis je me retrouvais seule, sans monstre, sans rien. Et puis sans regarder devant moi, j'ai dit je suis tranquille. Et puis après, hop, je suis tombée dans un trou. Je savais plus où j'étais parce que là, ça tournait dans tous les sens. Alors j'avais mal à la tête. Et puis, quand même, j'avais vu le plus pire des monstres, avec des grandes dents, une plus grande bouche que le vampire. Et j'étais devant lui, oula, j'avais peur de lancer. Moi, j'étais à peu près comme ça, et puis il avait à peu près une dent comme ça.
C'est-à-dire que rien que la dent est 10 fois plus grande que toi?
Oui.
Mais dis donc, qu'est-ce qu'il fait comme métier, ton papa?
Orthophoniste.
Et ça consiste en quoi?
De réparer les langues.
Et comment ça finit?
Comment ça finit? J'avais trouvé une pierre, mais avec une pointe. Et puis j'avais jeté sur sa langue, mais la pointe était vers sa langue. Et puis après, il avait fermé sa bouche. Et après, ça appuyé dans sa langue. Alors il a eu très mal à sa langue. Après, il avait avalé. Et puis après, il avait mal. Et puis il a commencé un peu à mourir. Après, et puis c'était pareil pour les autres. Après, j'ai essayé de trouver quelque chose. C'est une pierre avec une flèche au-dessus. C'était quelque chose de précieux. Alors, je l'ai pris dans ma poche parce que j'avais un petit sac. Et puis après, j'ai rencontré une fée. Elle était toute bleue.
Bleue?
Oui. Bleue clair. Et j'ai dit à la fée de rendre ce monde plus joyeux. Et voilà.
Et ça a marché?
Oui.
Et le monde était plus joyeux?
Oui.
Et alors un monde joyeux, c'est comment un monde joyeux?
Par exemple, avec des gens qui font la fête. Des gens qui préparent des gâteaux, des crêpes, des galettes.
C'est comme ça dans la vie?
Oui.
Oui? C'est vrai?
Oui.
La vie est comme ça?
Oui. Il chante, il part, il s'amuse. Voilà, ouais.
L'enfant qui rêve, c'est une nouvelle version d'un reportage d'Anne Rioux qui a été diffusé pour la première fois en février 1998. Et à l'époque, Lucie Hakoun, qui a réalisé, était une petite gamine qui avait l'âge des enfants, de même que Grégory Salomonovitch. Et puis Franck Aderer, l'autre réalisateur, n'était pas bien vieux non plus. Voilà. À l'époque, c'était Bruno Carpentier qui avait fait une première version. Merci aux enfants de l'époque, de l'école primaire Voltaire, rue Paul-Éluard à Montreuil. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter, à la rubrique Programme émission là-bas si j'y suis. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site là-bas.org, là-bas.org, et faire un tour sur la page Facebook de là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Jean-Philippe Jeanne et Nicolas Jaillot. Marion Dupas attend dès à présent vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis. Au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.
France Inter, partenaire du Festival Saint-Malo, étonnant voyageur, du 18 au 20 mai. Rencontres, débats, expositions, projections. De l'Afrique qui vient à l'Amérique est une légende, étonnant voyageur explore notre époque en pleine mutation avec plus de 250 écrivains et artistes qui donnent à sentir, à voir, à lire l'inconnu de notre monde. Festival Saint-Malo, étonnant voyageur, du 18 au 20 mai. Renseignements sur franceinter.fr.
France Inter, partenaire du Festival des Vieilles Charrues à Carhaix. Du 18 au 21 juillet, vivez 4 jours de fêtes et de musique en plein cœur de la Bretagne avec plus de 70 concerts, 5 scènes. Neil Young, Elton John, Rammstein, Phoenix, Assaf Avidan, Al Jay, M. Mais aussi Roquette Traoré, Oxmo Puccino, Lou Doyon, Mesparo, Marie-Pierre Arthur, Brains et bien d'autres. Renseignements sur franceinter.fr.
Bonne fin de semaine à tous. On se retrouve lundi à 15h pour là-bas si j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Maxime Deps. Salut.
Vladimir Poutine ne goûte visiblement que très peu l'adoption par la France du texte sur le mariage pour tous. Le président russe annonce cet après-midi que son pays pourrait réviser les accords d'adoption avec les États qui autorisent le mariage homosexuel. Vladimir Poutine entend faire valoir, dit-il, je cite, les traditions culturelles et les normes éthiques de la Russie. Les excuses d'un homme devant ses victimes qui attendaient au moins ça. Cet après-midi à Marseille, le fondateur de la société varoise PIP, Jean-Claude Masse a demandé pardon aux femmes qu'il a fait souffrir en leur vendant des implants mammaires non conformes pendant des années. Jean-Claude Masse espère, dit-il, que la conclusion des débats sera de nature à les conforter. PSA entend bien mettre en œuvre sa restructuration sans attendre dès lundi le constructeur automobile qui estime avoir obtenu le feu vert de la justice cet après-midi pour enclencher la procédure des 8000 suppressions de postes annoncées à Rennes et à Aulnay. Deux organisations syndicales, la CGT et Sud s'étaient opposés à ce plan devant le tribunal. Plainte rejetée aujourd'hui, les deux syndicats envisagent de faire appel. De son côté, la CGT de l'usine Goodyear Damien Nord estime que son projet n'a pas été pris au sérieux. Son projet de SCOP, de coopérative, a été rejeté aujourd'hui par la direction. Le but de ce projet était de maintenir la production de pneus agricoles de l'usine. C'est un coup de massue supplémentaire pour les 1175 salariés du site, toujours sur la sellette. Dans ces nouvelles moroses pour l'emploi, une bonne tout de même est arrivée jusqu'aux oreilles des salariés de Renault à Flins. Ce sont eux qui produiront la prochaine Micra de Nissan à partir de 2016. Le constructeur l'a confirmé aujourd'hui, c'est la garantie d'une production de 82 000 véhicules par an pour le site. Cette bonne nouvelle également au Bangladesh, c'est rare. 50 survivants ont été retrouvés aujourd'hui au troisième étage de l'immeuble effondré mercredi près de Dhaka, la capitale. Un effondrement qui a tout de même fait plus de 300 morts, 300 ouvriers du textile qui y travaillaient. L'immeuble ne répondait pas aux normes de sécurité. Il avait été construit illégalement. Une foule en colère, des centaines de milliers de manifestants se sont rués aujourd'hui sur les forces de l'ordre qui ont riposté par le tir de balles en caoutchouc. Enfin, si ça vous intéresse, que vous avez un peu d'argent de côté, un buste de Giacometti qui représente Caroline, sa dernière muse, sera vendu aux enchères le 13 juin prochain à Lucerne, mise à prix 2,5 millions d'euros, une broutille, diront certains, à côté de son homme qui marche, vendu là aussi aux enchères en 2010 à Londres, mais pour 104 millions de dollars.
Studio Théâtre.
La plupart des hommes recèlent en eux-mêmes leur propre caricature.
Laure Adler.
Au programme de Studio Théâtre, Michel Faux ressuscite Monterland.
L'époque actuelle est excellente pour faire sortir ses caricatures.
Arthur Nosiciel orientalise la mouette.
Je suis une actrice.
Et Philippe Ken réveille... les dragons japonais.
Studio Théâtre, ce soir sur France Inter, à partir de 23h. France Inter,
la voix est libre.
16h04 sur France Inter, tout de suite on parle musique, ça se passe avec Sylvie Chapelle et c'est en direct du Printemps de Bourges.
Bonjour Maxime.
Bonjour.
On se retrouve à 17h.
À 17h, promis.
À tout à l'heure.
Vous aviez un musicien passionné, attiré par ça, mais à Cuba, il y a plus de médecins qu'un musicien, par exemple.
Moi, j'ai toujours été fascinée par des gens un peu excentriques, des gens comme Bowie, comme Gainsbourg. Ils investissaient ce champ du dandisme.
Dans la culture anglo-saxonne, on a plus tendance à considérer la voix comme un instrument qui dialogue.
Il ne faut pas diriger pour le public. La musique doit arriver. On ne dirige pas pour le public, non. Ce serait ridicule.
Je vis dans une époque très riche.
Avec Sylvie Chapelle...
Je vois tout le bazar qui se passe, quoi.
On parle musique.
Incroyable.
C'est le printemps, nous sommes à Bourges. Je vous laisse déduire le festival dont vous pouvez jouir où que vous soyez grâce à France Inter. Jusqu'à dimanche, plusieurs centaines d'artistes et groupes vont se produire sur toutes les scènes de la ville. On avait le choix pour puiser librement dans ces 6 jours de musique. Aujourd'hui, Pony Ox, Lescope et Jane du groupe de filles Savages seront avec nous jusqu'à 17h sous la bienveillance du directeur artistique de cette manifestation, Christophe Davy. Il y aura du live aujourd'hui. Bienvenue si vous nous rejoignez. On parle musique au printemps. Printemps de Bourges. J'ai donc le plaisir d'accueillir Christophe Davy et 2 membres du groupe Pony Ox, Laurent Barden et Nicolas Kerr. Bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour.
Lescope et Jen nous rejoindront dans quelques minutes. Christophe Davy, ça fait presque 15 ans que vous donnez vie musicalement au Printemps de Bourges. Quand on sait ce que représente le seul fait d'inviter quelques amis à dîner, on peut imaginer les efforts que nécessite une telle organisation. Est-ce que vous êtes satisfait du résultat jusqu'à présent? Comment ça se passe?
Pas forcément à moi de le dire. On est toujours satisfait de ce qu'on fait, mais plutôt aux autres de le dire, et notamment à vous. Après, oui, on est surtout une grosse organisation. Moi, je suis un maillon dans une chaîne et c'est plutôt, on va dire, un système, une organisation, une trentaine de personnes qui travaillent. Et en fait, c'est cette idée-là elle-même sur laquelle nous, on essaye de rendre service.
En 77, Daniel Colling a créé le festival pour réagir à une situation culturelle très orientée variété. Je le cite, à l'époque, il existait 3 radios, 3 chaînes de télévision et 2 émissions musicales qui passaient en boucle. Dassin, Hallyday, Sardou, Lama, Dalida. C'est plus le cas aujourd'hui et pourtant vous êtes toujours là. Comment vous faites pour rendre le public accro?
Le festival, il a commencé sur une idée, effectivement, c'était de mettre en avant des artistes qui sont pas forcément, n'ont pas forcément accès aux médias nationaux. Donc, autre temps, autre époque, en 77, les artistes qui n'avaient pas accès aux médias nationaux, ils s'appelaient Renault. Donc, effectivement, ça a bien changé. Donc maintenant, nous, on essaie de suivre cette idée-là avec les nouvelles méthodes de diffusion de la musique, avec Internet, avec tout ça. Ça a ouvert beaucoup de choses.
C'est beaucoup de recherche, du coup.
C'est beaucoup de recherche et nous, on a essayé de suivre un peu cette époque et ce temps-là avec un festival plus resserré, avec beaucoup de découvertes, beaucoup de petites salles. Le printemps, il ne faut pas oublier qu'on parle beaucoup des quelques têtes d'affiches qui sont un peu quelque chose qui nous donne une attention nationale. Mais on programme beaucoup plus d'artistes dans des salles de 400 à 500 de capacité et qui sont là pour que nous, on est là pour quelque part faire découvrir un public. Hein. Quand on est dans une direction artistique, on n'est pas là pour faire... ce qu'on aime et nos goûts personnels. Nous, on est juste là pour mettre en relation un artiste et un public, des artistes et des publics, et qu'au milieu de ça, il y a des médias, et nous, on est là pour ça, et que la relation du live, c'est l'artiste avec un public en direct, et voilà.
Et ça prend. Chansons, rock, hip-hop, électro et même jazz, tout au long de la semaine, les artistes défilent sur les différentes scènes à Bourges, même les plus petites. Pony Ox jouait hier soir et 2 sur les 5 membres du groupe sont restés pour cette émission. On est vraiment ravis. Laurent Barden et Nicolas Kerr, c'était comment hier?
Super.
Non, c'était très bien.
Ouais.
En plus, comment... il faisait beau, c'était les premières chaleurs.
Ouais, il faisait très, très
voilà,
beau.
Voilà,
oui, il faisait très chaud, c'était un peu trop calme.
J'avais envie de nager dans le canal.
C'est vrai, on a un petit canal à, sur le côté.
Mais il me semble qu'il n'y a plus d'écrevisses maintenant.
Mais votre dernier album, là, State of War, il a été bien, bien accueilli par le public parce que vous souhaitiez un petit peu ouvrir à un autre public.
Pas forcément, non, non. Nous, on fait ce qu'on peut. En fait, on ne fait pas ce qu'on
peut. On fait pas ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut. Ça non, non, c'est pas un album des, pour des crevisses dans les cours d'eau français. Non mais vraiment, réellement. Elles sont toutes mortes, les pauvres. Avant, on faisait du poulet avec crevisses, maintenant on veut même plus.
D'accord. Bon, en tout cas, vous, vous êtes contente de ce que vous avez fait hier.
Ouais, très oui. Bien.
Okay. Dans quelques minutes, on va vous entendre en live dans cette bulle du printemps où nous nous trouvons pour prolonger ce concert d'hier soir. Samedi soir, ce sera au tour du groupe Chic Chic Chic. On va les écouter dans One Girl, One Boy, tiré de leur cinquième album. Il sortira lundi prochain.